Point de conversation avec l'ami Jean-François Mallette de l'agence DDB Montréal. Au menu, cinéparc, football, technologie, data, relations clients et porte d'entrée de l'Amérique du Nord. Bon podcast!
Jean-François Mallette, bonjour.
Normand Miron, comment ça va Jean-François?
Salut, ça va très bien toi?
Ça va bien. On se commence tout ça par toi Jean-François?
Oui, je commençais à travailler à temps plein, j'avais 12 ans. Fait que le travail a toujours été partie intégrale de ma vie.
T'allais plus à l'école?
À 12 ans, c'était peut-être pas nécessairement temps plein, mais c'était c'est un travail là, plus qu'une job-in, plus que passer des journaux. Là.
OK. Tu faisais quoi?
Moi, j'ai commencé au Cinéparc à Boucherville.
Ah, OK.
Puis, funny story, j'avais été engagé pour ramasser les vidanges sur le terrain. Puis, la direction a remarqué que je ramassais les vidanges en courant. Donc, moi, c'est investissement à 100% ou zéro. À la fin du premier mois que je faisais ça, ils m'ont fait rentrer en dedans, puis ils m'ont fait leader un comptoir. Puis rapidement, dans le premier été, je suis monté dans les top 5 vendeurs au Canada.
À 12 ans?
Ouais, on était de 12 à 13, mettons. Là.
Okay. C'était quoi le film à ce moment-là, t'en rappelles-tu?
Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Premier été, c'était quoi déjà?
Peut-être que c'était Superman, fait que tu disais, il m'a tête comme lui.
C'est ça, j'ai essayé de le copier. À 17 ans, j'étais directeur de cinéma, le plus jeune directeur au Canada. Je faisais ça en même temps qu'être à l'université. Je suis allé à l'université au HEC. Puis en même temps que je faisais ça, je jouais pour les Carabins de l'Université de Montréal. Avant que mon corps commence à tomber en morceaux. J'ai eu reconstruction de l'épaule gauche, reconstruction du genou droit à 3 reprises.
Fait que t'avais la formation parfaite pour aller en pub.
À peu près, hein? Pour le carrière qui dirige ses équipes, puis qui lead, vraiment, là, ouais. On pourrait faire un bon parallèle avec ça, parce que c'est aussi ça l'aspect stratégique de la pub, hein? T'analyses ton marché, t'analyses ce qui se passe. Tu fais des moves selon le data que tu collectes. C'est un data en constante évolution, comme une partie de football. Tu peux pas te dire, en début de match, voici ce que je vais faire, puis je déroge pas de cette ligne de conduite-là. Mm-hmm. Ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Même chose que le football.
Fait que t'as commencé où en agence?
J'ai commencé chez Terrain.
OK, avec David.
Oui, avec David Aubert. Puis, un excellent ami à moi et moi, on s'est fait approcher pour un peu remonter Koundary à Montréal.
Mm-hmm.
Ma première expérience avec une réalité torontoise. Puis, j'ai été approché par DDB. Koundary était ma première réalité avec Toronto. Là, c'est ma première réalité dans un contexte international.
C'est
contexte
ça.
D'un gros groupe avec des ressources hallucinantes, du monde tellement brillant, puis un côté humain qui est absolument désarmant, là.
Puis toi, que tu sortais de l'école avec un minding d'entrepreneur, t'as-tu senti que l'aspect entrepreneurial chez toi disparaissait à partir du moment que t'as commencé à travailler avec des boîtes de Toronto?
Pas du tout.
Non?
Pas du tout. Je dirais que l'aspect, tu sais, le côté entrepreneurial, c'est aussi la façon dont tu vois les choses.
Mm-hmm.
C'est le mindset de pas t'attendre à ce que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Moi, si je veux que les choses avancent, évolue, change, se transforme ou arrive, ben c'est ma responsabilité de faire en sorte que ça arrive.
Ce qu'ils appellent l'intrapreneurial?
On peut appeler ça comme ça. C'est maître de sa propre destinée. J'attends pas que quelque chose arrive.
L'optique de DDB d'arriver à Montréal, c'est pas juste d'avoir un bureau de service à date, mais c'est de développer de façon parallèle, DDB Montréal au Québec?
Ah, clairement. C'est, je dirais, la grande raison probable qui explique pourquoi ça a pris un certain temps à DDB avant d'ouvrir le bureau de Montréal. Ils l'ont ouvert il y a un petit peu plus que 2 ans.
Mm-hmm.
Puis c'était à un moment où vraiment il était prêt à ouvrir puis à le traiter en priorité. Pas juste à le traiter en bureau de traduction ou adaptation. Où le bureau est toujours en train de se battre pour des ressources, puis se battre à ce que moi j'appelle la table des grands.
Oui.
Ben, non, chez DDB, tu as une mentalité qui est complètement différente de ça. c'est une inclusion automatique à la table des grands, une importance spécifique et spéciale accordée à la différence d'un Montréal, puis la plus-value qu'un Montréal peut ajouter dans l'équation. C'est vraiment une compréhension automatique qu'il y a une différence culturelle, puis il faut la traiter avec importance. Puis pour la traiter avec importance, ça veut dire que tous les gens adéquats sont assis à la table des adultes dès le début. C'est pas juste une implication dans l'exécution ou juste un « Hey, est-ce que ça fonctionne au Canada, au Québec? » C'est « Non, 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 qu'est-ce qu'on doit faire au Québec? » Puis on va aligner les ressources accordingly. Si on ouvre un bureau à Montréal, on walk the talk. Montréal est important. Montréal est up front and center dans l'avenir de l'agence. Puis pour l'avenir de l'agence, ça prend un réseau fort. Pour un réseau fort, ça prend un Montréal très fort. Puis on va aligner nos bottines avec nos babines pour faire en sorte que ce soit le cas.
Fait que travaillez-vous avec les fameux trios créatifs évoqués par mon chum Juan Carlos?
Oui, mon chum aussi, Juan Carlos.
Ah ouais?
J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer encore, mais oui, on travaille comme ça.
Parce que juste à la base de mettre ensemble un créatif, un planner et un digital dude, ça paraît pas si innovant que ça, mais dans la vraie vie, c'est rare que ça se passe, surtout en amont d'un projet.
C'est clair. Comme tu dis, ça paraît pas tant innovant parce que quand tu l'expliques, ça paraît la base. Mais de le mettre en action, prioriser, puis de l'imposer, ça c'est différent. Parce que on a tous déjà entendu parler de cette formule-là. Mais de le faire fonctionner, puis vraiment là, de le voir de mes yeux, c'est ça qui est particulier, puis c'est ça qui est intéressant. Parce que tu as un œil différent de trois personnes qui ont trois approches, trois visions, trois backgrounds, trois expertises ou complètement différentes, qui vont contribuer ensemble et travailler ensemble. C'est vraiment une approche de très grande collaboration. Puis à la vision aussi du modèle Unlimited, dans ce fameux trio-là, il y a aussi le client qui joue un très, très, très grand rôle.
C'est vrai.
Parce que malgré le fait que j'aime bien les cigares puis le brandy là, ou le scotch, j'irai pas m'isoler ou nos créatifs ou nos stratèges n'iront pas s'isoler dans une grotte à réfléchir pendant deux semaines ou un mois en n'impliquant pas le client. Parce que la réalité des deux côtés change, évolue. Il y a des nouvelles opportunités qui se créent à toutes les minutes pour pouvoir maximiser. Tout l'aspect data est tellement primordial. Puis on faisait la référence avec le carrière tantôt là, qui lead une partie puis qui lead un jeu. On voit le jeu ou le marché évoluer, puis évolue à la minute près. On est en temps réel et même plus. Donc, c'est important d'avoir la compréhension de la science de l'analytique, du data, puis d'avoir ces données-là, puis avoir l'expertise pour les analyser de façon adéquate pour pouvoir vraiment fueler les différentes équipes en temps réel sur l'évolution du marché pour qu'on puisse arriver avec un contenu, de la création, puis des propositions technologiques qui sont pertinentes pour la réalité de nos clients en temps réel. Valoriser l'implication du client, la pertinence, l'intelligence, puis l'expertise du client.
La connaissance, surtout.
Bien, certainement, surtout la connaissance. Qui de mieux placé que le client pour connaître son marché, sa réalité actuelle, puis ses mouvements à l'interne. Tu sais, des fois, le client, c'est un client qui représente 250 franchisés ou c'est un client qui représente 500 employés avec des perspectives qui sont provinciales, nationales ou internationales. C'est lui qui sait qu'est-ce qui se passe à l'interne. C'est lui qui sait c'est quoi ses challenges, c'est quoi les challenges qu'il vit à l'interne, les challenges qu'il vit à l'externe. Quand tu as une vraie collaboration, mais t'as un principe de vase communicant, puis vraiment un échange qui est pertinent entre les deux, puis t'as pas, tu sais, ça devient pas quelque chose de, entre gros guillemets, phony, là, forcé ou imposé. C'est naturel. Ça va, je te dirais, à la base de notre, ce que je te disais tantôt par rapport à Frank dans une business de relation, là. Si je te connais bien, si t'es mon client, puis je te connais bien, je te connais très bien, je connais c'est quoi ta réalité. Je connais qu'est-ce qui se passe dans ton marché. Je connais qu'est-ce qui se passe à l'interne chez toi parce que tu me le partages pas sur une base annuelle ou mensuelle. Tu me le partages sur une base quotidienne. quotidienne. Mm-hmm. Fait que je sais exactement t'es où dans ta tête. Puis toi, tu sais exactement où est-ce que je suis dans ma tête. Puis comme ça, on peut évoluer ensemble puis arriver avec les meilleurs trucs pour le marché, les meilleurs trucs pour le brand, puis les meilleures solutions innovantes.
Perspective d'avenir pour le bureau de Montréal. Fait 4 mois, t'es là. Dans 2 ans?
Dans 2 ans, on va avoir... On va tirer notre épingle du jeu sur le marché local, national et international. Ce que propose un groupe comme DDB, c'est vraiment un accès à la scène internationale. Puis avoir un bureau à Montréal, ça peut être pour des clients qui sont purement et typiquement québécois. Ça peut être pour des clients qui sont canadiens. Ça peut être pour des clients qui sont internationaux. Puis Montréal, ne l'oublions pas, c'est la porte d'entrée francophone de l'Amérique du Nord. On a la réalité bilingue dans un réseau, puis dans un monde, une planète, qui a une réalité plutôt anglophone.
Dans 2 ans, finalement, ouais, ça va faire comme Cineplex, puis tu vas te retrouver comme à la présidence de DDB Worldwide, c'est ça?
on a un super groupe à la présidence de DDB. Mm-hmm. Desquels je peux apprendre. Donc vraiment, moi, mon emphase, c'est qu'on s'établisse bien dans le marché montréalais. Là, j'arrive à un moment qui est super intéressant parce que on a une équipe qui est extraordinaire, puis humaine, puis...
Mais tu te vois-tu grandir dans ce réseau-là, toi?
Absolument.
Le petit Jean-François Mallette, vas-tu devenir Jean-François Mallette éventuellement?
Jean-François? Non, Jean-François, ouais, ça a toujours été assez drôle parce que j'évolue dans un univers canadien, disons, depuis les 8-9 dernières années. Là.
Ouais.
Puis le Jean-François, je l'ai switché pour le GF. Tout le temps G ou GF ou Jeff.
Je pense que c'est le cas de tous les Jean-François. Je connais pas un Jean-François, ouais, qui s'appelle Jean-François.
Mais ça n'a pas de bon sens. On est trop à avoir le même nom, premièrement. Puis c'est un nom qui est trop long à dire. Donc, j'ai beau m'appeler GF, mais t'enlèveras jamais le Québécois en moi, malgré la réalité canadienne dans laquelle on vit. Fait que moi, dans un meeting, ça va souvent détonner parce que moi, je suis celui qui est très latin, qui va connecter tout de suite avec les clients, même si c'est la première fois que je les vois.
Mm-hmm.
Puis la poignée de main à la Stephen Harper, là, on va passer à d'autres choses.
Tant que c'est pas la poignée de main à la Trump.
Pas tant.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres podcasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das Podcast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!